centième anniversaire de la mort de Saint François de Sales, donc, qui a vécu de 1567 à 1622. Et il y a eu pas mal de choses. Il y a eu un colloque universitaire entre Turin, et puis une partie s'est déroulée. Alors ça ne s'est pas déroulé à Chambéry, ça s'est déroulé à Annecy. Ça, c'était le colloque universitaire auquel j'ai participé, d'ailleurs. Il y a eu alors, en Haute-Savoie, à peu près toutes les sociétés d'histoire ont eu des conférences sur Saint-François de Sales. C'était vraiment... Alors, l'idée, c'était de regarder, est-ce que Saint-François de Sales a eu des rapports avec la vallée de la Maurienne? Et y a-t-il eu un culte de Saint-François de Sales en Maurienne? C'est à ces questions que je vais essayer de répondre. Alors, je vais le faire en cherchant ce qu'en ont retenu, bien sûr, les historiens, dans ce qui reste une entité géographique limitée, la vallée de la Maurienne. Ah, c'est pas passé. Alors, la technique nous lâche. Bon, si ça ne veut pas passer, je vais passer la main. Voilà, bien. Alors, sachant que la vallée de la Maurienne est finalement une vallée où la réforme a eu quand même peu d'emprise, en dehors, je parle des fêtes les plus notables, du passage de Guillaume Farel en 1538 avec sa tentative, alors c'est contesté actuellement, mais sa tentative de création d'une église réformée à Mont-Béranger, au-dessus du Châtel, du prêche dans la cathédrale de Raphaël Bourdeil en 1543, qui était un prêtre qui était interdit pour ses tendances hérétiques, mais qui était assez bien avec l'évêque, ce qui fait qu'il a pu prêcher, et puis la conversion de quelques membres de la famille notable, noble Rapin. Alors, il y a eu d'autres conversions, mais j'ai parlé des choses les plus importantes. Alors, pour réaliser ce travail, j'ai fait un choix. C'est d'abord celui de travailler essentiellement d'après les érudits de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Parmi ces derniers, bien sûr, on a les membres de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne. Vous les avez ici. J'ai aussi travaillé à partir d'auteurs religieux chambériens, comme le père Jean de Cognin, Eugène de Bellevaux, des ecclésiastiques annéciens, les chanoines Sucillon ou Bernard Secret, et puis des auteurs des deux départements, en général membres des sociétés savantes, comme Auguste Dufour et François Rabu, qui sont bien connus en Savoie, François Munier, François Perron et Georges Grandchamp, pour la Tarentaise, qui sont tous, à peu près tous, membres de l'Académie Florimontane. Et puis à partir d'historiens et anthropologues comme Arnold van Gennep ou Roger De Vos, et puis à partir d'une dame qui avait fait un énorme travail, une recension de tous les tableaux de Saint-François de Sales, qui s'appelle Josette Curtil. C'était sa thèse de doctorat en histoire. Alors c'est sûr qu'il y a une majorité d'auteurs religieux. Alors ça, on pourrait me le reprocher, mais puisque je le dis avant, je me couvre. Et ces auteurs religieux, bien évidemment, leur opinion, elle est sûrement même orientée, d'une part, par leur état ecclésiastique, par l'influence des congrégations salésiennes qui étaient très nombreuses au XIXe siècle, les fameuses congrégations de Don Bosco, et puis peut-être aussi par quelques réminiscences issues de l'anticléricalisme de la Troisième République. L'autre source de recherche, de renseignement, elle est composée de documents d'archives qui proviennent de l'évêché de Maurienne. Des reliquaires, des lettres, des comptes rendus d'érection de paroisse, des visites pastorales, et puis vous allez le voir, d'autre part, d'un certain nombre de recherches que j'ai faites directement sur le terrain. Alors voici le plan que nous allons suivre. Le 29 décembre 1922, à l'occasion du 300e anniversaire de la mort de Saint-François de Sales, eh bien, la Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne, notre société, voulant marquer sa vénération pour ce saint, va consacrer sa séance à cet anniversaire. Et ce jour-là, le chanoine Adolphe Gros, qui est le président, lit quelques notes sur le passage du saint en Maurienne. Alors il explique que le culte de Saint-François se distingue en Maurienne essentiellement par l'église d'Entraigues, dans les Arbres, on en reparlera, qui date de 1843, par celle de Saint-François-sur-Bujon, fait, on en reparlera aussi un peu plus loin. Et puis, il dit celle d'une chapelle qui lui est dédiée au hameau du Point, paroisse de Saint-Jean d'Arves, et qui date du XVIIe siècle. Alors, cette affirmation m'a posé problème. Elle m'a posé problème parce que je suis allé la voir, cette église, elle n'est pas du tout Saint-François de Sales. Et quand on consulte 1000 ans d'histoire, vous savez, le fameux travail qui a été fait sur toutes les paroisses de Maurienne et puis maintenant de Tarentaise, c'est en train de se terminer, eh bien, Madame Pascale Constant, qui a travaillé là-dessus, elle écrit « Les deux frères Laurent et François Brun fondent la chapelle Saint-Laurent au Point en 1626 et elle est dédiée à Saint-Laurent et Saint-François d'Assise. » Et d'ailleurs, le tableau qui est signé Taravel, qui date de 1839, représente une Vierge à l'enfant, Saint-François d'Assise et Saint-Laurent. Donc, et actuellement, la chapelle, elle est sous le vocable de Saint-Roch. Donc là, il y a un petit problème. Alors, la veille de cette journée consacrée à Saint-François de Sales, eh bien, la société, les membres de la société, vous savez qu'à l'époque, c'était une société très fermée, il fallait être admis, c'était pas très nombreux, sous la présidence toujours du chanoine Adolphe Gros, votent cette adresse qui est envoyée à l'Académie Florimontane d'Annecy, que je vous laisse 2 minutes pour lire. Alors, est-ce que Saint-François de Sales est passé en Maurienne? C'est la première question qu'on peut se poser. En fait, il a peu séjourné en tout cas, moi j'en ai trouvé peu de traces. Il va passer une première fois en 1588 pour se rendre à l'université de Padoue, où il va poursuivre ses études de droit. Il va repasser en 1598 lorsqu'il se rend à Rome, pour traiter des affaires religieuses du Chablais, à nouveau en 1613 lorsqu'il se rend sur le tombeau de Charles Borromée en pèlerinage, et puis enfin en mai 1621 lorsqu'il se rend à Pignerolles dans le Piémont où il doit présider au nom du pape Alexandre VII le chapitre des Feuillants. Les Feuillants étaient incapables de désigner un responsable à ce moment-là. Donc le pape demande à François de Sales d'y aller à ce moment-là. Alors, lors de son voyage retour, il est très fatigué. Il va même rester plusieurs semaines à Turin. Et il est tellement fatigué qu'il va être obligé de faire des arrêts. Alors des arrêts, j'en ai trouvé deux. Le premier, c'est à La Chambre, dans le village de La Chambre, où il va coucher dans un hôtel. Et alors, on a la trace de ce séjour parce que pendant cette journée qui passe là-bas, il y a un différend entre son aumônier, qui l'accompagne, et l'hôtelier, parce que l'hôtelier, sans prévenir, déménage les affaires de l'aumônier, de la chambre où il les avait mises, dans une autre, un petit peu moins confortable que celle qui lui avait été attribuée. Alors l'aumônier se fâche, voit rouge, et là, il voit non seulement Saint-François de Sales prendre parti pour l'hôtelier, mais en plus, lui adresser une réprimande. Et il lui aurait dit: tant s'en faut, monsieur Michel, qu'il faille rapporter vos petites besognes, que s'il fallait encore les sortir de la chambre où elles sont pour les remettre en une autre moins commode, vous devriez le supporter doucement et patiemment, car ne savez-vous pas ce que notre Seigneur a dit? Si quelqu'un vous enlève votre tunique, donnez-lui encore votre manteau. En tout cas, le lendemain, ils reprennent la route, ça se passe pas bien, Saint-François de Sales est pris de grièves et aigres douleurs, et du coup, ils doivent passer une autre journée, voilà, pardon, j'étais en retard, dans le château de la famille Castagnieri, les Castagnieri de Châteauneuf, à Argentine, où, dit-on, il fut très bien et très honorablement reçu. Alors, il semblerait que Saint-François de Sales ait donné un missel à la famille Castagnieri, mais j'ai pas trouvé la preuve pour le moment. En tout cas, est-ce que ces passages en Maurienne ont contribué à sa popularité? Je ne sais pas. En tout cas, dans les comptes rendus du conseil municipal de Saint-Jean du 10 décembre 1768, on parle, à l'occasion d'un incendie rue Saint-Antoine, d'un bâtiment appartenant à une dame Jeanne Borrelly et qui porte le nom de logis de Saint-François de Sales. Le Saint-Homme se serait-il arrêté dans cet établissement? J'en ai pas la preuve. C'est la seule preuve que j'ai. Lors du procès de canonisation de Saint-François de Sales, de très nombreux miracles et de très nombreuses guérisons sont rapportés. Quand je dis très nombreux, les guérisons, on est par centaines. Les miracles, il y en a beaucoup. Deux concernent des Mauriennais. Mais ils ne se sont pas passés en Maurienne, ils se sont passés en Haute-Savoie. Le premier a lieu en 1617. Alors, rappelez-vous la chronologie de ce que je vais vous raconter, vous verrez, c'est important après. Sur les 9 heures du matin, arrivent dans la cour du palais épiscopal d'Annecy des Mauriennais escortant à cheval un jeune paralytique, tout contrefait, ayant les nerfs retirés et entièrement impuissant et paralytique de naissance. Les accompagnants étendent un peu de foin dans la cour, mettent le paralytique dessus. À ce moment-là, ils sollicitent le valet de Saint-François de Sales, qui s'appelle Germain Pilliot, et ils lui disent « Est-ce que Monseigneur pourrait voir ce jeune homme ?» Alors, le valet dit « Écoutez, je vais demander à son Excellence, il va le voir. » Et il lui dit « Voilà, les Mauriennais ont apporté un garçon impuissant de tous ses membres. » Et désire fort que vous le voyez. » Alors Saint-François Sales lève les épaules par commisération et dit « Hélas, ces bonnes personnes pensent peut-être que je fasse des miracles. Mais tout ce que je puis pour eux, c'est prier Dieu, mais faites-les venir. » Alors, les Mauriennais montent le jeune homme dans la chapelle, le mettent sur la crédence. La crédence, c'est une tablette, une console qui est souvent près de l'autel où on met les objets pour le culte. Et puis ils s'en vont. Alors l'évêque reçoit alors la confession du jeune homme. Puis il dit la messe, et après celle-ci, il rappelle les accompagnants et il leur dit « Ramenez-moi demain cet enfant à la même heure. » Et il dit au jeune homme « Et vous, mon enfant, tenez-vous prêt pour recevoir la Sainte Communion, car je célébrerai et prierai Dieu pour vous. » Le lendemain, après la troisième messe, le paralytique étant étreint par les épaules, eh bien il est relevé par le saint homme et il fut à la même heure droit, puissant et entièrement guéri. Et non seulement il chemina librement dans la salle, mais il se retira même à cheval. Très beau miracle. Mais il est quand même intéressant d'analyser cette guérison. Le paralytique, c'est une personne que la maladie rend impuissante, qui est privée de toute capacité d'action et qui est donc dépendant de l'aide des autres. Dans la religion juive, il y a une relation entre le péché et la souffrance. Donc le paralytique est peut-être une personne contre qui Dieu est fâché. C'est pourquoi le saint homme, François de Sales, commence par le confesser. Puis ensuite, il lui fait remarquer qu'il n'a pas le pouvoir de lui pardonner ses péchés, seul Dieu peut le faire, mais il peut intercéder en sa faveur. Dans l'Ancien Testament, le pardon des péchés, il s'obtient par le moyen de différentes offrandes, des sacrifices. Là, elles sont remplacées par les trois messes. Les gens venus de la Maurienne, ce sont ce qu'on appelle de véritables amis, en ce sens qu'ils vont vaincre tous les obstacles. La distance à franchir entre la chambre et Annecy, franchir l'obstacle que constitue le valet, et puis porter jusque en haut sur la crédence le malade. Donc ce sont les exemples d'une foi qui surmonte à la fois les épreuves et les obstacles. Le paralytique, lui, il reste passif jusqu'à ce que le saint homme lui ordonne de se lever, mais ça ne se passe pas n'importe comment, je vous ai dit, il le fait en l'étreignant par les épaules. Le contact par les épaules, ça permet la transmission de la vertu par le contact des mains. Et l'action, elle est renforcée souvent par une prière, c'est ce qu'on appelle le rite verbal. Enfin, c'est la foi du paralytique qui croit, qui lui permet de se lever et de marcher. Alors, soyons honnêtes, si vous allez dans la Bible, que vous allez lire l'Évangile selon Marc 2, 1-12, la Genèse, dans la Genèse, eh bien, vous avez Jésus guéri un paralytique. C'est à peu près copié-collé. En tout cas, dans les deux textes, le paralytique est anonyme et on ignore son nom. Le deuxième miracle, il a lieu en 1623. Deux frères, Jérôme et François Genin, qui sont âgés de 13 et 14 ans, alors ils sont originaires de Sainte-Hélène-du-Lac, mais à l'époque, Sainte-Hélène-du-Lac est dans le diocèse de Maurienne. Les deux enfants sont en pension chez Claude Puteaux, curé des Ollières en Genevois. Ils sont là-bas pour apprendre le latin. Il y a un vicaire avec qui ça se passe assez mal, ce qui fait que le dernier jour d'avril, après avoir été fortement réprimandé, les deux gamins décident de s'enfuir et de revenir chez leurs parents. Ils partent de bon matin, et quand ils arrivent devant la rivière, mais qui est le Fier, eh bien, elle est enflée par la fonte des neiges. Et pour passer, il y a juste une espèce de petite passerelle qui est très difficile à passer. Alors l'aîné, qui s'appelle Jérôme, s'engage, et puis bien sûr, au milieu du pont, la tête lui tourne, le pied lui manque, et il tombe dans la rivière. Son frère court, revient aux Ollières en courant, demander de l'aide, plus de 30 personnes viennent, dont un dénommé Alexandre Raffin, qui est accoutumé à repêcher les corps tombés dans la rivière. Alors, sur la prière de l'enfant et puis de tout le monde, bien sûr, il accepte de plonger. Il va plonger plusieurs fois dans l'eau, ça va demander un certain temps. Et puis, il finit par découvrir le corps sans vie. On va récupérer le corps, on va le ramener au village. Et le lendemain, alors qu'on prépare une fosse pour l'enterrer, arrive le curé Puteau. Alors, le curé Puteau, il se met à genoux devant le corps de l'enfant et il prie Dieu longtemps. Et il lui promet que s'il rend la vie à l'enfant, il ira célébrer 9 messes dans l'église où repose le corps de Saint-François de Sales. Et au moment où on veut mettre le corps dans le linceul, eh bien le mort lève un bras, pousse une plainte et s'écrie « Ô bienheureux Saint-François de Sales ». Les présents lui prennent la main, l'aident à se relever, il a retrouvé sa figure juvénile et il assure que le Saint-Évêque vient de lui apparaître et l'a béni. En tout cas, deux choses, l'histoire dit que le prêtre devient curé de La Rochette pendant plein d'années et que pendant de très longues années, il sera curé de la paroisse de La Rochette. Alors ce miracle est un des 7 qui ont été utilisés pour la canonisation de Saint François de Sales. Il faut savoir qu'il faut 7 miracles, mais en aucun cas des miracles qui se sont produits du vivant du saint, enfin, celui qui va être sanctifié, toujours après. Ça c'est une raison qui peut faire échouer une canonisation si vous ne respectez pas ça. Alors, autre question, Saint François de Sales a-t-il fréquenté des Mauriennais célèbres ? Le 11 juin 1593, Saint François de Sales reçoit de Mgr Gravier, l'archevêque de d'Annecy, le sous-diaconat. Il est alors invité à prêcher dans la cathédrale. Pris au dépourvu, François dit « Mais non, il n'y a que lorsqu'on a le diaconat, pas le sous-diaconat, qu'on est autorisé à prêcher. » L'évêque insiste. Arrive à ce moment-là à Annecy le père Jacques Faudéré de Maurienne, qui est le provincial des Cordeliers, orateur réputé qui va sauver François en acceptant de se charger du sermon. Le deuxième Mauriennais célèbre, c'est le père Chérubin. Alors, père Chérubin, il s'appelait Alexandre Fournier, il est né à Saint-Jean le 24 mars 1566. À l'âge de 17 ans, il va rentrer au noviciat des Capucins de Gênes, et au moment de prononcer ses vœux, il va léguer, comme ça se fait pour les Capucins, tous ses biens à Mgr Pierre de Lambert, l'évêque de Maurienne. Lorsqu'il revient en Savoie, il devient rapidement un des plus fameux prédicateurs de son temps. En 1594, François de Sales écrit à son ami le président Favre, le fameux Favre, le juriste de Chambéry, une lettre dans laquelle il lui conseille d'aller entendre un jeune prédicateur, le franciscain Chérubin, qui prêche avec une très grande ferveur. En tout cas, les deux religieux se sont rencontrés lors d'un pèlerinage à Aix-les-Bains en 1594 et on dit qu'ils se sont liés d'une amitié intime. Et puis en 1597, c'est le moment où saint François de Sales essaye de ramener le Chablais dans le giron de l'Église catholique. Il décide d'organiser à Annemasse une manifestation de grande ampleur qu'on appelle les 40 heures. Alors les 40 heures, et bien pendant 40 heures de jour et de nuit, en continu, et bien on commémore le temps que Jésus a passé dans son tombeau. Alors il y a plein de manifestations. En tout cas, à cette occasion, le père Chérubin fait représenter à une tragédie qui s'appelle le sacrifice d'Abraham et dans laquelle eh bien, il va faire jouer le rôle de Dieu le Père à François de Sales. Le troisième personne mauriennais que va rencontrer François de Sales, eh bien, c'est le peintre originaire de Saint-Michel, Pierre Dufour. Alors, Pierre Dufour, c'est dit l'ancien, on ne sait pas grand-chose sur lui. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en octobre 1627, il a demandé à être reçu bourgeois d'Annecy et pour ça, on lui dit ben, une des conditions. Vous êtes quand même un peintre célèbre, c'est que vous peigniez un tableau en pied de saint François de Sales et ce tableau sera mis dans l'hôtel de ville. Alors en fait, le tableau, bien, il a disparu, malheureusement. Dernière chose que je peux citer, c'est une relation entre François de Sales et l'évêque de Maurienne, Philibert Millet. En effet, il y a à ce moment-là, la sainte maison de Thonon possède le prieuré de Saint-Julien de Maurienne. Et le chapitre de la cathédrale de Maurienne possède l'abbaye de Filly à côté de la maison sainte de Thonon. Et ils vont décider d'échanger tout ça, et François de Sales le fera avec Mgr Philibert Millet. Dernière chose, en 1616, lors du passage du duc Charles-Emmanuel Ier à Annecy, saint François de Sales lui aurait proposé un projet de réforme des ordres religieux de femmes en Savoie, dans lequel il proposait de transporter à Saint-Jean-de-Maurienne les religieuses cisterciennes du béton. Ça arrivera 10 ans plus tard. Alors, quelle manifestation du culte de saint François de Sales trouve-t-on encore en Maurienne aujourd'hui ? Il y a d'abord des tableaux. Sur cette carte, vous voyez les endroits où ils sont répartis dans 16 églises. D'abord, il y a 35 tableaux qui sont répartis d'abord dans 16 églises. Vous les voyez ici. Bon, je ne vous les donne pas toutes. On va prendre deux exemples. Le premier, c'est Valoire, l'église Notre-Dame de l'Assomption. C'est un tableau de Gabriel Dufour, de 1682. Vous avez en bas ici Claude Rapin, le donateur, le fondateur et le donateur du tableau. Vous avez Saint-Pierre, bon, vous le reconnaissez facilement, Saint-Pierre ici, Saint-François de Sales. Et puis en haut, vous avez le Christ, une Vierge, avec le Père éternel ici qui tient un globe dans la main, et le Christ qui tient une couronne et qui pose sa main sur l'épaule de la Vierge en signe d'affection. Autre exemple dans une église, l'église de Mont-Pascal. Le tableau est aussi un Dufour de 1686, Dufour ou ses élèves, on ne sait pas bien. En tout cas, vous avez en bas, toujours pareil, Saint-François de Sales agenouillé. Celui-là, vous ne pouvez pas le louper, parce qu'avec les flèches, on sait que c'est Saint-Sébastien. Vous avez Saint-Roch ici. Et puis en haut, vous avez une Vierge à l'enfant entourée d'angelots et qui tend le Saint-Suaire à Saint-Dominique. Le rosaire, pas le Saint-Suaire, le rosaire à Saint-Dominique. Puis vous avez aussi Sainte-Catherine de Sienne ici. Voilà, ça c'est Sainte-Catherine de Sienne. Ça, c'était les églises. On en a aussi dans 12 chapelles. Même chose, vous voyez ici la liste des chapelles. On va prendre deux exemples. Toujours à Valoire, la chapelle de la Rivine. C'est un tableau anonyme du XVIIIe siècle. Vous voyez en bas, donc la chapelle Notre-Dame du Bon Repos. Vous voyez en bas, alors en haut, vous avez la Vierge avec l'enfant Jésus. Et puis il y a des angelots. Et puis en bas, alors ce qui est intéressant autour de la Vierge, regardez, vous avez des nuées de neige poudreuse, parce qu'en fait la chapelle est sur un endroit où il y a avalancheux, où il y en a eu en tout cas. Vous avez en bas donc, avec les bras croisés, saint François de Sales. Vous avez saint Laurent avec le gril, l'objet de son supplice. Vous avez sainte Agathe avec elle aussi l'objet de son supplice. Elle a eu les seins coupés qu'elle présente sur un tableau. Sainte Agathe, c'est aussi la protectrice justement des catastrophes naturelles. Et puis vous avez Saint-Claude ici, en habit épiscopal. Dans la chapelle du séminaire de Saint-Jean, vous avez une peinture anonyme de Saint-François de Sales, qui est du XIXe siècle. Bon, le saint est représenté bénissant, le regard tourné vers le spectateur. Vous savez, c'est ces tableaux où vous mettiez le regard vous suit. C'est une technique de l'époque. En tout cas, il y a quand même une disproportion, regardez, entre la tête, la grandeur de la tête et le reste du corps. Et puis voilà, pour ce qui est des peintures, j'ai trouvé aussi deux peintures murales. La première, elle est dans l'ancien palais épiscopal, dans la chapelle. C'est un tableau de Jacques Guille que vous avez ici. Et la deuxième peinture que j'ai trouvée, elle est dans la chapelle de Montandré, donc sur la commune d'Hermignan. Voilà. Alors, si on regarde qui sont les peintres qui ont peint tous ces tableaux, on voit que sur 35 tableaux, 25 sont anonymes. Vous en avez un qui est d'Auguste Bertrand, un de Jean-Baptiste Jomard, un Peretti, et 7 attribués à Dufour ou à ses élèves. Exemple de tableau de Dufour, un autre exemple, dans la chapelle de Saint-Michel de Maurienne, un tableau de 1668. Alors le tableau, il est intéressant, vous avez en bas Saint-Pierre, Saint-Sébastien, qu'on reconnaît facilement, avec les flèches, Saint-François de Sales, et puis à côté, Saint-Antoine, ici. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous avez le Saint-Suaire, qui est représenté, et puis en haut, vous avez le bienheureux Amédée IX de Savoie, Sainte-Anne, la Sainte-Vierge, Sainte-Agathe et Saint-Antoine de Padoue. Si on regarde les dates d'exécution des tableaux, on s'aperçoit que la grande majorité, ils datent de la fin du XVIIe siècle, deuxième moitié du XVIIe, ce qui correspond à la date de proclamation du culte, et puis une quantité notable est peinte fin 18e, début 19e, ce qui correspond, vous allez voir, au regain de piété salésienne en Savoie. En tout cas, sur 31 tableaux, sur 35, saint François de Sales est vêtu en évêque, ce qui veut dire que la fonction épiscopale et la sainteté l'emportent sur la fonction du prédicateur, en tout cas en ce qui concerne la Maurienne. Si on regarde les représentations, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que 10 tableaux sont des portraits, ce qu'on appelle des portraits de dévotion privée. Ce ne sont pas des portraits qui ont été faits à la demande de la communauté, c'est en général un particulier qui l'a demandé. Vous en avez un exemple ici, Valménier, l'église Notre-Dame de l'Assomption, tableau de Dufour, 1696, le saint est en buste sur un fond sombre, et en général, souvent, on ne voit pas les mains, de façon à ce que vraiment l'attention se porte sur la figure du saint. 6 sont des représentations en pied. Alors vous avez ce tableau qui est très connu, puisqu'il est dans la chapelle du séminaire, hôtel latéral, et que depuis 2 ans, ce saint François de Sales est devenu le patron des cyclistes, en tout cas pour la Maurienne. C'est un tableau anonyme, c'est un saint écrivant, vous voyez, il a la plume, il a l'autre main là, sous sa croix épiscopale. Est-ce que c'est il y a un paysage de montagne derrière ? Est-ce que c'est la Maurienne ? Là, je ne peux pas vous dire. 19 fois, saint François de Sales est représenté avec la Sainte Vierge. 9 fois avec l'enfant Jésus, 1 fois c'est une Pietà, et 2 fois avec la Vierge seule. Vous en avez un exemple ici, Notre-Dame du Cruet, l'église Notre-Dame de la Nativité, encore un tableau de Dufour, avec saint Benoît et saint François de Sales, saint Benoît, saint François de Sales agenouillé. Et en haut, vous avez ce qu'on appelle une Vierge des Litanies qui est sur un croissant de lune, si vous regardez, qui est debout sur un croissant de lune ici. Et 18 fois, saint François de Sales est associé à un ou plusieurs autres saints. 14 fois, ce sont des saints guérisseurs. Je ne vous donne pas la liste, mais ce sont essentiellement des saints guérisseurs. Là encore, un exemple, Albier le Jeune, chapelle de Bonvillard. Vous avez un tableau qui est... Alors, selon José de Curtil, ce tableau est de 1697 et il est anonyme. Selon le chanoine Belay, il date de 1684 et il est d'esprit amabert. Là, je ne peux pas dire ce que la vérité. En tout cas, vous avez Saint-Antoine Abbé, Saint-Bernard de Menton, qu'on reconnaît ici, avec le diable en dessous, et puis Saint-Jean-Baptiste, bien sûr, et puis Saint-François de Sales, et en haut, une Vierge. Autre exemple, Saint-François Longchamp, la chapelle Sainte-Anne, on reviendra sur cette chapelle un petit peu plus tard. Vous avez un tableau anonyme du XVIIe siècle avec Saint-François de Sales, Sainte-Anne et Saint-Antoine Abbé, et puis en haut, une Vierge à l'enfant. Voilà, vous avez un panorama des tableaux. Donc ils sont... Il y en a que José de Curtil a trouvé qui ont disparu, j'en ai trouvé d'autres. Grosso modo, on est sur 35-36. Ça, c'était la partie tableau. La deuxième partie, c'est la statuaire. Alors, en fait, j'ai trouvé assez peu de statues de saint François de Sales répertoriées en Maurienne. La première que j'ai trouvée, c'est celle-là. Et l'origine n'est pas connue, d'après M. Caporizo et ce qu'on a pu voir. Elle viendrait de la chapelle de l'ancien séminaire, l'hôpital actuel, et elle est signalée que dans cette petite plaquette. C'est le seul cas où on en parle. Faut savoir, le village de Bessin-en-Haute-Maurienne, il est renommé pour ses sculpteurs. Là, je ne vous apprends rien. Et parmi ceux-ci, il y a Étienne Faudéré. Étienne Faudéré, il serait né en 1649. On ne sait pas quand est-ce qu'il est décédé. En tout cas, il réalise en 1672 un rétable pour le fond du chœur de la chapelle du Saint-Esprit. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des photos parce que cette chapelle, elle a été emportée par l'arc en 1957. En tout cas, de chaque côté, on a du rétable, on a deux statues, Saint-Augustin et Saint-François de Sales en évêque. Toujours dans ce qui concerne Bessin, Francis Trac, dans sa présentation d'un autre sculpteur, Étienne Vincent des Dessins, lui, c'est un sculpteur 19e, 1813-1889, explique que de très nombreuses familles possèdent des statuettes qui font entre 20 et 40 cm et qui représentent leur saint patron. Et ils avaient l'habitude de les mettre dans des niches au-dessus des portes d'entrée. Alors là, je n'ai pas trouvé de photos, j'ai juste cette présentation qu'en fait Francis Trac. Sinon, j'ai trouvé cette statue dans la châle, la chapelle Notre-Dame de Présentation, donc à Saint-Jean-d'Arme. Elle date de 1864. J'ai trouvé celle-ci dans l'église d'Albiers-le-Vieux. Elle est placée sur le maître-autel. Elle date de 1880. Dans la chapelle du séminaire, donc séminaire qui est là-bas, il y a sur l'autel latéral gauche une statue du saint que vous voyez. Et chose intéressante, sur une des faces de la chaire à prêcher, eh bien, vous avez un saint François de Sales qui est sculpté. J'ai trouvé une autre statue anonyme qui est dans les couloirs du séminaire. Elle est dorée. Et puis une autre en bois, pareil, qui vient d'être découverte récemment quand le déménagement a eu lieu. On n'a pas de renseignements sur ces statues. Et la dernière que j'ai trouvée, si je ne me trompe pas, eh bien, c'est l'église Notre-Dame de l'Assomption à Termignon. Leur étape date de 1670 et ils possèdent un certain nombre de petites statues, dont une de saint François de Sales. On le sait, là, c'est facile de l'identifier parce que c'est marqué ici, si vous regardez. Alors, autre chose, les reliquaires. On va traiter un reliquaire d'abord et les autres ensuite. Vous allez voir pourquoi. Le premier, c'est un reliquaire un petit peu spécial puisqu'il s'agit d'un reliquaire en cuivre qui fait à peu près 40 par 50, qui est donc dans les archives de la maison diocésaine. Si vous regardez bien, il a une croix au milieu. Mon truc, il ne marche plus. Bon, une croix au milieu. Là, vous avez SFS Saint François de Sales, SJC Sainte Jeanne de Chantal. Alors, on a très peu de renseignements sur ce reliquaire. Il y a une note du chanoine Jean Belay qui indique à l'intérieur la présence de 5 documents attribués à Saint François de Sales, mais mettant en doute leur authenticité. Alors, le premier de ces documents, le voici. C'est un texte de 3 pages, non signé, qui commence par les mots « L'évêque de Genève est seul légitime prince et souverain de Genève ». Le deuxième document, c'est une lettre de Saint François de Sales à Madame de Charmoissy, qui date de 1622. Le troisième document, qui commence par « Status ecce gebene », c'est un brouillon d'un rapport écrit par Saint François de Sales sur l'état de son diocèse et qu'il devait présenter à Rome. Le quatrième est une lettre de Saint François de Sales à M. Claude de Neuvecelle de 1842, c'est une recommandation pour une jeune fille pauvre. Et puis il y a un document d'une demi-page non signé. Alors, ces documents m'ont posé beaucoup de problèmes. Ils m'ont posé beaucoup de problèmes parce que déjà, il faut savoir que il existe un faussaire qui s'appelait Genevois, qui s'appelait Henri David Fabre, et on considère qu'il a fait plusieurs milliers de fausses lettres de Saint François de Sales. Il avait tout compris, il savait qu'il y avait des collectionneurs. Ce monsieur fauchait des papiers anciens dans les archives, il a tourné un peu sur toute la France, et il fabriquait de l'encre ancienne, il sait très bien faire, et il a fabriqué des lettres de Saint François de Sales. Et le problème, c'est que dans les 3 lettres, celle de monsieur de Neuvecelle, je l'ai déjà trouvée à 3 exemplaires. La photocopieuse 17e, j'ai un petit peu de mal. Et ça m'amuse d'autant plus qu'il y a eu une dizaine d'années, il y a eu une très grande vente aux enchères à Paris, et qu'il y avait, 50 ou 60 lettres attribuées à Saint François de Sales. Les collectionneurs se sont battus pour les acheter, et a posteriori, je pense que les 3/4 étaient des fausses. En tout cas, alors une est intéressante, c'est la lettre, la deuxième, la lettre à Madame de Charmoisy, parce que dessus il est marqué qu'elle appartiendrait à Monsieur l'abbé Favier, supérieur du petit séminaire de Saint-Jean. Alors pour moi, déjà, alors je suis pas graphologue, mais il est notoire que Saint François de Sales ne laissait pas d'espace, il écrivait en continu. Alors si vous regardez les lettres, il y a des endroits, on va à la ligne. Donc ça pose des problèmes. En tout cas, déjà le fait que ces reliques n'aient jamais été officiellement reconnues à Saint-Jean et qu'elles n'aient jamais été utilisées plaide, à mon avis, en faveur d'un défaut d'authenticité. Alors, autre chose, dans le bureau de l'archevêque à Chambéry, il y a aussi 2 lettres de Saint-François de Sales et elles sont fausses aussi. Bien, alors passons à d'autres types de reliquaires. On va passer, voici celui de l'église de Montpascal, il date de 1737. Il y a des reliques de plusieurs saints, dont Saint François de Sales. Il y Il y en a un autre qui est placé sur l'autel de l'église d'Entraigues. On parlera de l'église d'Entraigues après. Là, c'est des reliques de saint François de Sales et de Jeanne de Chantal. Vous avez ce qu'on appelle les reliques, une relique corporelle insigne, c'est-à-dire que c'est un élément du corps du saint. Et vous avez dans cette montre Gousset du sang de saint François de Sales. Ça, c'est dans les reliques de la cathédrale de Saint-Jean. Toujours dans les reliques de la cathédrale, vous avez ce reliquaire, là, qui contient, alors là, ce qu'on appelle des reliques représentatives. Vous savez que si vous prenez un morceau de tissu, un morceau de papier, que vous le mettez sur le tombeau du saint, ça devient une relique. Ça, c'est un peu commercial, mais c'est comme ça. Il y avait son authentique à côté. Autre relique, toujours dans les reliques de la cathédrale de Saint-Jean, ce joli reliquaire. Et puis, il y a celui, j'ai trouvé un autre, toujours à Saint-Jean, celui-là. Et puis, encore un troisième. Et celui de l'église des pierres, dont je vais vous reparler. Alors, celui de l'église des pierres, il est intéressant aussi, enfin, je l'ai trouvé très intéressant, parce qu'on a pu ouvrir l'arrière et qu'on a pu déplier ce qu'on appelle l'authentique. L'authentique, c'est un évêque qui fait un papier disant « c'est effectivement une relique de saint François de Sales ». Il en reste un dernier, celui de l'église de Sardières. Voilà où j'en suis de toutes les reliquaires que j'ai pu trouver. Alors, à propos de ces reliquaires, vous voyez que le décor, qui est quand même globalement assez riche, il y a beaucoup de dorures, non ? C'est joli, ça montre quand même l'importance qu'on accordait à ce culte dans les églises ou les chapelles. Je ne parle pas des gens, je parle de l'église ou de la chapelle dans laquelle ils étaient placés. Mais par contre, le fait qu'il y ait plusieurs reliques dans un même reliquaire, ne préjugeant rien de la vitalité du culte des présents. Autre chose très jolie que j'ai trouvée, qui a malheureusement a disparu, ben c'est une bannière de procession. J'en ai trouvé une seule, qui est dans l'église de Lens-le-Villard, enfin elle vient de l'église de Lens-le-Villard, elle était dans le presbytère de Lens-le-Bourg. Alors cette bannière, qui est en satin blanc, qui fait à peu près 110 cm par 95, c'est ce qu'on appelle une peinture sous tontis, c'est-à-dire une peinture qui imite le velours. Donc elle provient de l'église de Lens-le-Villard. Sur une face, ben, vous avez saint François de Sales agenouillé devant son évêque, vous les avez ici. Et sur l'autre face, vous avez une Vierge à l'enfant présentant un chapelet. Alors, on n'a pas de renseignements sur cette bannière, sauf qu'on pense qu'elle est d'origine italienne. Elle n'est pas datée, mais déjà le fait qu'elle soit sur un tissu, un lin blanc, et non pas sur un fond rouge, permet de penser qu'elle est antérieure au XIXe siècle. À partir du XIXe, toutes les bannières sont en rouge. D'autre part, la forme de la couronne. Regardez la forme de la couronne qui apparaît fin XVIIIe, début XIXe, sur le tableau de la Consolata de Turin, pourrait nous permettre de penser qu'elle vient d'Italie. Alors, chose très intéressante, on trouve dans l'église Saint-Jean au marché à Troyes, regardez, un tableau qui représente, qui est quand même très proche de ça. Voilà, pour la bannière de procession. J'ai trouvé un seul vitrail. Un seul vitrail, il est dans l'église d'Utile, l'église Saint-Laurent-d'Utile. Il date de 1892, il n'est pas vieux. On peut s'interroger sur la présence de ce saint, mais si on lit Relie Van Genève, eh bien, il nous explique que dès que saint François de Sales a été canonisé, il a été utilisé comme un saint un petit peu universel qui pouvait remplacer tous les autres. Donc ça peut être la raison pour laquelle il est dans cette église de Saint-Laurent d'Utile. Alors au XIXe siècle, deux nouvelles paroisses et une nouvelle église vont être créées en Maurienne sous le vocable de saint François de Sales. La première, elle est issue de la création sur la commune de Monge-la-Fraye d'une deuxième paroisse. Alors pourquoi est-ce qu'on crée une deuxième paroisse ? Ben parce que les habitants expliquent que, en tout cas pas ceux qui habitent dans le village, mais tous ceux qui habitent en bas, et beaucoup sont de l'autre côté de la rivière, eh bien qu'en hiver, ils ne peuvent pas aller se rendre à l'église. Ça pose des problèmes pour les enterrements, ça pose des problèmes pour la messe du dimanche et tout. Et du coup, ils vont faire une demande à Monseigneur Vibert, à Monseigneur Billet. Monseigneur Billet est Au vu des choses demandées, Monseigneur Billet va accepter. Mais alors, il va mettre une condition qui est amusante. Il dit, d'accord, vous pouvez construire une deuxième église, je vais vous la montrer, de l'autre côté du ruisseau, mais à condition que ça soit une chapelle. Alors ça pose un problème, parce que dans une chapelle, on ne peut pas baptiser, on ne peut pas marier, on ne peut pas enterrer. Donc c'est une chapelle-église. Et si vous regardez bien, c'est devenu... Alors, c'était à un endroit qui s'appelle Covatière. Quand vous montez la route de Saint-François-Longchamp, à un moment, il faut descendre, et puis vous tombez, voilà ce qui reste. Alors là, j'ai mis deux des images, j'y suis allé, c'est assez long pour y aller. Il reste donc la façade de l'église. Actuellement, on la voit beaucoup moins parce qu'il y a des arbres devant. Et puis, quelques tombes dans le cimetière. Le lieu s'appelle Covatière. Le problème, c'est que ce village, petit à petit, va être abandonné, parce qu'il n'est pas pratique non plus. Et du coup, la paroisse va devenir non plus la paroisse Saint-François de Sales, mais la paroisse Saint-François-sur-Bugeon. Et maintenant, Saint-François-Longchamp. Et Mange-la-Fraie fait partie de Saint-François-Longchamp au niveau paroisse. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous allez à Saint-François-Longchamp, vous n'avez toujours pas d'église. Le culte est fait dans une chapelle, la chapelle Sainte-Anne. La deuxième paroisse, elle est créée en 1856 sur la commune de Saint-Jean-d'Arve, c'est la paroisse d'Entraigues. Les raisons sont rigoureusement les mêmes que pour Mange-la-Fraie. Pour se rendre à l'église du village principal, la tour, eh bien, il faut près d'une heure, il faut traverser un ruisseau qui charrie beaucoup de limon au moment des pluies. À cause du mauvais état des chemins, les personnes âgées ne peuvent pas se rendre à l'église paroissiale. Plusieurs personnes sont mortes sans recevoir les derniers sacrements et il a fallu un hiver garder 5 jours un mort à la maison. Du coup, l'évêque accorde une deuxième paroisse et sur le tableau qui est posé sur l'autel, eh bien, vous avez, il est anonyme du 19e siècle, vous avez Saint-François de Sales bénissant qui est ici, de l'autre côté. À côté, au milieu, vous avez une Vierge de l'Apocalypse qui écrase le serpent. Vous le voyez ici, le serpent. Et puis, Sainte Marguerite. Alors, Sainte Marguerite, c'est intéressant parce que Sainte Marguerite d'Antioche, avant le Concile de Trente, elle a 4 attributs. La croix, le livre, les perles et le dragon. Alors, la croix et le livre, c'est le symbole de sa foi envers le Christ. La croix, c'est aussi l'instrument qui lui permet de s'extirper du ventre du dragon qu'il a avalé. Et les perles rappellent l'étymologie du prénom Margarita en latin, c'était perle en latin. À partir du Concile de Trente, on considère cette image, elle est de la sainte qui sort du dragon et qui vient de la légende dorée de Jacques Voragine, elle est fausse et qu'elle est porteuse d'une fausse doctrine. Et du coup, on va changer l'imagerie et on met plutôt la palme et la couronne. Mais en général, elles ne sont pas portées par la sainte, mais par un ange qui est derrière. Alors, elle ne sort plus du ventre du dragon, mais elle le tient en laisse. Alors là, dans ce cas-là, eh bien, on a bien la palme, on a bien la croix, on a le livre, et bien le dragon, il est remplacé par une tête de mort que vous avez ici. Voilà. Autre église construite au XIXe siècle, c'est sur la paroisse des Pierres. Sur la paroisse des Pierres, si vous regardez bien cette photo... Vous avez ici une église. Bon, si ça voulait marcher. Vous l'avez ici, l'église, là-haut. Alors, je suis allé pour la voir. Je vais vous raconter une petite histoire. Elle a été faite en 1828. Et cette église, dès 1867, elle est abandonnée. Elle est abandonnée parce qu'ils trouvent qu'elle n'est pas pratique. Et du coup, ils vont garder que la porte d'entrée et... Alors, voici les photos que je suis allé faire. Alors, je vais vous raconter une histoire à propos de cette voiture. Et puis, voilà, et là, ils ont gardé la porte d'entrée et la chaire à prêcher qui ont été remises dans cette église. Alors, je raconte une petite histoire parce que le jour où je suis allé pour essayer de faire des photos, j'arrive devant l'église et en même temps que moi, arrive un monsieur en voiture qui se plante, vous avez vu la voiture, devant l'église. Alors, très poliment, je vais voir ce monsieur, je lui dis, excusez-moi, est-ce que vous me laisseriez 30 secondes pour faire les photos de l'église sans votre voiture ? Je me suis fait jeter. Ce monsieur m'a expliqué que le patrimoine, il n'en avait rien à faire, que tous les historiens ont lui cassé les pieds. Voilà, du coup, eh ben, j'ai pas eu la... C'était extraordinaire. J'en ai parlé au maire des Pierres. Il m'a dit, oui, c'est un mauvais coucheur. Bien, voilà, en tout cas, j'ai pas pu... Voilà. Il y a un certain nombre de chapelles et d'oratoires. Je ne les ai pas tous recensés, les oratoires. Il y a 12 chapelles au total qui sont sous le vocable de Saint-François de Sales, mais je ne les ai pas en photo, je n'ai pas eu le temps de les photographier. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que, en tout cas, les représentations du saint trouvées en Maurienne, vous voyez, il y en a beaucoup, il y a des tableaux, il y a des reliquaires, il y a une bannière, il y a un vitrail, il y a un peu tout ce qu'on veut. Il y a eu un culte de Saint-François de Sales dans la vallée, c'est incontestable. Un culte qui dure sur un temps assez long, puisqu'il va du 19e, puisqu'au 19e siècle, encore, du 17e au 19e siècle, on crée encore des paroisses sous le vocable de Saint-François de Sales. C'est vrai que ça correspond à la période de regain salésien dans les anciens états de Savoie. Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir recensé toutes les manifestations de cette dévotion. Il reste sûrement des statues ou des reliquaires à découvrir. J'aurais aimé aussi trouver si le jour de la fête du Saint, donc le 24 janvier, si des messes étaient dites dans le diocèse. Alors ça, c'est très compliqué, il faut aller chercher l'ordinaire de toutes les par communes, je n'ai pas pu le faire. En tout cas, en 1940, à l'occasion d'une mise à jour, ce qu'on appelle le propre diocésain, c'est-à-dire les saints qui sont fêtés dans le département, Monseigneur Auguste Grumel, qui est évêque de Maurienne, demande le retour des fêtes traditionnelles dont les oraisons secrètes et post-communion de la fête de Saint-François de Sales, en raison, dit-il, des séjours fréquents, alors le fréquent, je lui laisse la responsabilité, fait par le Saint-Évêque de Genève en Maurienne, où il aimait s'arrêter en son voyage à Rome. Alors, est-ce qu'il y a eu un culte ? On pourra répondre oui, finalement, puisque 28 églises ou chapelles contiennent des marques de sculpte, ce qui correspond à peu près à la moitié des paroisses de Maurienne à cette époque. Mais deux éléments font qu'on peut quand même qu'il est difficile de quantifier ce culte. Le premier, c'est que sur les 35 tableaux, j'en ai présenté quelques-uns, 16 sont des portraits ou des représentations sur pied, ce qui correspond, ce que je vous ai dit, à des portraits de dévotion privée. Ça n'est pas l'expression d'une volonté communautaire, mais plutôt de celui qui demande ou qui commande et qui paye le tableau. Mais, toujours selon Van Genève, il ne faut pas oublier que si les particuliers qui ont offert l'œuvre, qui peuvent être soit des roturiers ou des nobles, noblesse récente ou ancienne, mais quand même noblesse locale, le don, il peut quand même être l'expression d'un culte populaire collectif. Et ça, c'est possible. Quatre autres tableaux sont sur des autels latéraux. Là aussi, ça témoigne plus d'une dévotion de la part de celui qui a offert le tableau. Souvent, il en profite pour se faire représenter, d'ailleurs. Quatre seulement tableaux sont sur un autel principal. Et encore, là, Saint-François de Sales n'est jamais seul, mais toujours associé à d'autres saints ou à d'autres saintes. Donc, vous voyez, y a-t-il eu un culte ? Oui. Peut-on le quantifier ? Non. Dernière petite chose, si vous allez dans l'église, dans la cathédrale de Chambéry, l'église Notre-Dame de Chambéry, et bien vous avez un tableau de Saint-François de Sales, Sainte-Jeanne de Chantal recevant l'habit des mains de Saint-François de Sales, qui a été peint par notre peintre mauriennais, Jacqui. Voilà, je vous remercie pour votre attention.